France Guimard-Roche vous propose une promenade estivale pour aller flâner du côté du château de Ferrières jusqu'à l'hôtel Lambert sur une île à Paris avec Marie-Hélène et Guy de Rothschild, un couple romantique à souhait. Le baron Guy, dans son livre « Contre bonne fortune », est formel. Aux penseurs du moment qui volontiers cultive la haine de l'argent pour nous promettre des lendemains qui chantent, je citerai ce mot. Le goût de vivre et le goût des fêtes sont l'apanage des peuples heureux. Tandis que les heures s'égrenaient en musique, les invités dansaient en admirant le décor. Et quel décor ! Le salon bleu les accueillait, immense, au plafond mouluré soutenu par 4 colonnes, tableaux précieux, accrochés aux cimaises, mis en valeur par le fameux fond bleu, éclairé par un lustre aux pampilles de cristal, accroché au centre du plafond, au bout d'une longue chaîne. Et ça et là, posés sur des tables boules ou des pilastres de marbre noir, des lampes en porcelaine Compagnie des Indes du 18e, montées sur des socles de bronze à décor de paniers fleuris et fleurs polychromes, dans des cartels délimités par des ornements bleu cobalt et coiffés d'abat-jour de forme pagode, habillés de franges. Deux bustes de personnages en bronze encadrent la porte à double battant qui ouvre sur le salon des tapisseries, appelé ainsi grâce aux hauts buissons qui recouvrent les murs, composant une sorte de panorama de paysages, des verdures du XVIIIe siècle. Un feu crépite dans la majestueuse cheminée de marbre sur laquelle est installée une haute pendule de bronze, encadrée d'une paire de chandeliers qui se reflètent dans le miroir de Venise à large encadrement doré, avec guirlande et soleil au fronton. Un paravent en lac de coromandel dissimulait une autre porte. Et cependant, Ferrières fermait ses portes. Depuis 1970, il m'était apparu de plus en plus évident qu'une propriété de cette taille constituait une charge qui, avec la marche des temps, deviendrait insupportable. Renoncer à une maison où tant de souvenirs vous attachent est une décision pénible, difficile à prendre. J'étais seule. Marie-Hélène, nos proches, nos amis, tous ceux qui avaient participé ou assisté à la restauration du château ne parvenaient pas à admettre ma décision. Tous ces efforts n'auraient donc permis qu'un sursis d'une quinzaine d'années. L'avenir devait me donner raison. Pour conserver l'immense avantage d'avoir une maison en pleine forêt, loin de toute zone sururbaine et pourtant à une demi-heure de Paris, j'ai fait construire un chalet dans un autre secteur du parc. On s'accorda enfin sur le choix de l'emplacement, longuement discuté avec des amis, souvent décidé, souvent remis. Maison basse, à la toiture composée de tuiles de bois, elle recouvre aussi les murs, de plein pied avec la campagne, équipée de toutes les commodités de service et d'entretien. Le chalet fait autant corps avec la nature que le château l'a dominé et s'en trouvait distant. J'avais voulu devancer l'évolution des temps. J'avais prévu d'échanger un château à la campagne et un hôtel particulier à Paris contre un petit chalet et un appartement en ville. Je me retrouvais avec un palais sur l'île et un chalet en forêt, comme il est de règle avec Marie-Hélène, toujours l'inattendu arrive. La forêt de mon enfance, le chalet pour une vie nouvelle. Mais le château était toujours là, à quelques centaines de mètres à peine, hors de la vue. Et si proche pourtant, par tous ces liens qui m'y rattachaient. On me fit des offres mirobolantes, mais jamais je n'aurais accepté qu'un étranger l'achetât. Mon intention première était de le donner à l'État. Marie-Hélène craignait un glissement progressif vers l'abandon anonyme. Elle me conseilla d'en faire plutôt bénéficier une œuvre, ou mieux, un organisme ayant quelque rapport avec la médecine. La recherche médicale n'en voyait pas l'usage. Le recteur Mallet, à l'époque recteur de l'Université de Paris, crut pouvoir lui trouver une affectation culturelle. Une partie serait réservée à un musée Napoléon III, une autre à des séminaires universitaires. J'avais précisé que les 135 hectares de parc que je donnais en même temps que le château devaient être obligatoirement ouverts au public. Tout cela paraissait facile et merveilleux et nous donnait l'impression de faire don utile. À l'usage, hélas, les difficultés et les coûts se sont révélés, m'affirme-t-on, plus grand que prévu. Mais on me permettra de trouver plus triste qu'une mort le lent abandon qui tombe sur le château, de trouver plus que désolant le refus de l'État qui n'a pas voulu débloquer, parmi tant de réserves inexploitées des musées, quelques meubles Napoléon III pour les salons. Désolant que tous les appartements disponibles attendent toujours leur séminaire, que le parc soit peu à peu envahi par les mauvaises herbes. Et plus triste encore, peut-être, ces malheureux touristes qui viennent visiter Ferrières et qui défilent à travers quelques salons vides. Moyennant finance, on peut louer aujourd'hui le château pour quelques mariages ou quelques films d'époque. On y tourna même certaines scènes du Guignolo avec Jean-Paul Belmondo et pour la télévision, Belle Amie avec Marisa Berenson qui vécut parmi nous quelques-unes des très riches heures du château. Nous avions rêvé d'une autre vie. Que personne aujourd'hui ne puisse se sentir assez responsable pour secouer cette léthargie, retourner cette situation me révolte. Les pesanteurs administratives, les rivalités entre les ministères, les jalousies, l'irresponsabilité étatique, on ne m'y reprendra plus. As Dorothy Parker once said to her boyfriend, fare thee well. As Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell, Isabel, swell. As Anne the Lark said to Eloise, don't forget to drop a line to me, please. As Juliet cried in her Romeo's ear, Romeo, why not face the fact, my dear? It was just one of those things, just one of those crazy flames, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just
just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things, if we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. End of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great, but it was just one of those things, just one of those things.
Le baron Guy aurait été heureux de connaître la fin de l'histoire de son merveilleux château, raconté d'un point de vue par Éric Janssen. Après avoir été le cadre de la vie mondaine du baron Guy de Rothschild et de son épouse Marie-Hélène, le château avait fermé ses portes. Elles s'ouvrent à nouveau aujourd'hui pour accueillir une école d'hôtellerie et de gastronomie, un autre destin pas si éloigné des origines de la somptueuse demeure. Un lieu, à une demi-heure de Paris, a longtemps attiré les regards, suscité l'envie, symbolisé le rêve. Le château de Ferrières fut la propriété de la famille Rothschild et au début des années 70, le théâtre de deux grands bals qui entrèrent dans la légende. Dernier feu d'une vie mondaine, décomplexée, ils furent donnés par le baron Guy de Rothschild et son épouse Marie-Hélène. Le premier a lieu le 2 décembre 1971 pour célébrer le centenaire de la naissance de Marcel Proust. Toutes les célébrités de l'époque font assaut d'élégance pour ressusciter les personnages de « À la recherche du temps perdu ». Le photographe Cécile Beaton immortalise Jacqueline de Ribes, Hélène Rochas, Charlotte Rampling, Marisa Berenson et Lise Taylor, couvertes de plumes, de perles et de diamants. Un an plus tard, le 12 décembre 1972, changement radical de décor, puisque cette fois Marie-Hélène donne le bal surréaliste avec Dali en invité d'honneur. Audrey Hepburn arrive avec une cage à oiseaux sur la tête. Jacqueline de Lubac opte pour une pomme façon Magritte et Denise Thyssen se coiffe de la réplique de sa propre tête. Effet saisissant garanti. Le menu est bien sûr à l'avenant. La mondanité avait encore beaucoup d'esprit. Thank you.
and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. Enclose with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Feeling better and close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and
La page est pourtant en train de se tourner, faisant disparaître le faste de ses réceptions. En 1975, le baron et la baronne de Rothschild achètent l'hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis et renoncent à mener la vie de château de leurs ancêtres. Ferrière est légué à la chancellerie des universités de Paris. Un lourd rideau d'oubli s'abat sur la noble demeure, car si le lieu revit de façon artificielle le temps de mariage ou de tournage de films comme Papy fait de la résistance, l'objectif d'en faire un centre d'études et de recueillement intellectuel n'a jamais vu le jour. Une femme veille à son entretien malgré le peu de moyens dont elle dispose. Mireille Munch est non seulement le maire du village de Ferrières-en-Brie, mais aussi la conservatrice du château. Grâce à elle, le bâtiment traverse les années sans trop de dommages. Mais en 2011, elle prend sa retraite et la chancellerie décide alors de tout fermer. Mireille Munch comprend que cette fois, la ruine menace et alerte les fils du baron Guy, David et Édouard. Un accord à l'amiable est trouvé et le château rétrocédé à la mairie. Cadeau empoisonné ? Il faut trouver une solution pour lui redonner vie et la marge de manœuvre est étroite. Le projet doit être socio-culturel. En mars 2012, Khalil Kater apprend que le château qu'il voit tous les jours de ses fenêtres se cherche un nouveau destin. Son rêve de fonder un jour une école dédiée à la gastronomie, à l'hôtellerie et au luxe est à portée de main. Il y a longtemps que je caressais ce projet, créer une école de l'excellence à la française afin de répondre à la difficulté que rencontrent les professionnels pour recruter des élèves bien formés. Il existe quelques écoles en France, mais trop compartimentées. Comment expliquer que 25% des élèves en Suisse, à Lausanne ou à Glion, sont français, s'interroge-t-il. Khalil Kater sait de quoi il parle. D'origine libanaise, il est arrivé en France en 1981, à l'âge de 15 ans. Après des études économiques et financières, il entre en 1992 chez Indosuez, puis devient directeur général chez Holiday Inn, avant de créer sa propre structure, baptisée Asselis. Au fil des années, elle regroupe des activités qui vont de l'hôtellerie à la restauration en passant par l'immobilier et compte aujourd'hui 1700 employés. En 2002, Khalil Kater installe son siège à Bussy-Saint-Georges, tout près de Ferrières-en-Brie et de son château. Un an plus tard, il crée une entité traiteur et y organise des mariages. En 2005, il ouvre un hôtel qu'il baptise le Paxton Resort et Spa. De quoi expliquer son étroite relation avec l'endroit.
Thank you.
En se lançant dans l'aventure en juillet 2013, il se donne les moyens de ses ambitions, un budget de 25 millions d'euros. Nous en avons déjà dépensé la moitié, car la demeure, bâtie en 1859 par Joseph Paxton pour le baron James de Rothschild, a besoin d'une sérieuse restauration. Une fois la façade ravalée, les artisans s'attaquent au décor néo-renaissance d'Eugène Lamy, si emblématique du goût de l'époque. Boiserie, marbre, parquet, plafond peint, tout est dépoussiéré sous l'œil des monuments historiques. Que les puristes se rassurent, Ferrières n'est donc en rien défiguré. Ça et là subsistent même des vestiges du passé. Le lustre de l'entrée, les bustes de la baronne Betty et de l'impératrice Eugénie, une table de chasse rachetée aux enchères par Mireille Munch dans les années 90. Mieux, la salle de bain de la baronne Germaine, la mère de Guy, est intacte, avec son mobilier art déco de Clément Maire. Comme n'a pas bougé le boudoir très Marie-Antoinette de Marie-Hélène, et dans la chambre dite des Pompidou, interdiction de toucher au papier peint chinois. Seul bémol, les tableaux ayant quitté la grande galerie, ils ont été remplacés par des reproductions photographiques. La modernité s'est glissée par petites touches dans le mobilier et l'informatique installés dans la trentaine de chambres devenues salles de cours, et de façon plus flagrante dans les cuisines flambant neuves. Elles cohabitent aussi dans les trois magnifiques salons transformés en restaurants, baptisés, fort à propos, le Baron. Leur décoration a été confiée à Pierre-Yves Rochon. « Je ne voulais pas d'une reconstitution historique, mais d'une transition avec notre époque », précise Khalil Kater. Pour l'heure, 35 élèves essuient les plâtres de cette nouvelle institution. Plus tard, une deuxième phase de travaux doit donner naissance à un campus universitaire capable d'accueillir 1500 étudiants. Ferrières va de nouveau symboliser l'art de vivre à la française dans le monde. Et qu'en pensent David et Édouard de Rothschild ? David nous a permis de reproduire le portrait du baron James qui est accroché à la banque. Édouard est venu et a été amusé de découvrir sa chambre d'enfant transformée en salle de cours. Je crois qu'ils sont très heureux de voir le château revivre.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new and each kiss an inspiration.
Ooh, ooh, ooh. Oh, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song.
And beside a garden wall, when the stars were bright, I dream in vain. In my heart it always will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain.
France Guy Maroche retrouvera avec vous les Rothschild pour danser avec eux tout l'été dans une série d'émissions enregistrées et réalisées par Émilie Glory dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.
Mm-hmm.